Car avant toute chose, je demande la grâce et la bénédiction pour...
Je te la donne.
Pour répondre à l'appel qui m'a été donné, la confiance que le Seigneur a mis en moi.
Elle est bien placée, je crois.
Dieu t'entende. Puis je demande aussi votre clémence parce que c'est un exercice auquel je ne m'adonne jamais. Faire un exposé devant un auditoire et...
Oui.
Et j'essaye que l'émotion ne me submerge pas, ce qui n'est pas évident. Voilà. Alors je crois que c'est important que je situe, avant toute chose, mon histoire avec le service du Temple. Il y a 22 ans, lorsque j'ai découvert l'orthodoxie, grâce à Père Alphonse et Rachel, il y a eu chez moi un désir très rapide d'entrer dans le service. Et la première liturgie que j'ai vécue au sein de l'orthodoxie, il y a eu un acte prophétique de Matouchka Rachel qui m'a invitée à servir, à porter le panier des offrandes. Et pour moi, ça a été une ouverture et j'ai ressenti vraiment... que c'était un appel. Et depuis ce temps-là, ça ne s'est jamais démenti, ce désir de servir dans le temple. Et alors, avant que je ne vienne m'installer dans le village, je n'avais pas de paroisse et j'allais me nourrir dans différents lieux. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer... Yvonne Vinart, qui était la mère des servantes dans les coffres. Et je lui ai ouvert mon cœur et je lui ai dit mon désir. Alors que j'étais toute jeune orthodoxe, elle l'a entendu et elle m'a conduite à Monseigneur Germain, qui m'a confirmé que je pourrais, le jour où je serai dans une paroisse, demander le postulat. Et c'est ce qui est advenu. Quelques temps plus tard, je me suis installée donc à Gorze et je suis entrée dans le service du temple, d'abord comme postulante, puisqu'il y avait des degrés qui nous étaient proposés. Et puis, quelques années plus tard, j'ai reçu la bénédiction pour devenir servante à vie. Et là, j'ai une grande reconnaissance pour tout ce que j'ai reçu au sein de cette église et à travers les bases qui nous étaient données dans ce petit livret des servantes qui avait été élaboré par Yvonne et béni par Monseigneur Jean. Et puis il y a eu la découverte d'une nouvelle matrice ecclésiale. Et c'est bien sûr l'église byzantine dans laquelle on a séjourné pendant 7 ans. Et pendant cette période, j'ai dû renoncer à mon engagement qui était assez profond parce qu'on m'avait demandé de porter la responsabilité de la coordination au sein des services. Et je me suis mise... à l'écoute de ce qui était des besoins et des nécessités de notre communauté. Et je me suis engagée plus profondément dans un autre service du temple qui est le cœur. Donc il y a eu une distance qui s'est créée pendant quelques temps par rapport au service, mais pas une coupure. Et c'est avec la... troisième entrée dans une autre matrice ecclésiale, l'église copte, que à nouveau j'ai eu une charge plus importante au niveau du service et que j'ai repris contact. Alors je dois dire qu'à travers toutes ces années, il y a eu un enrichissement à travers ces passages dans ces différentes églises et que je ne les renie pas. Je crois qu'on peut accueillir ces vases d'or et d'argent qui nous sont donnés et que l'on peut faire fructifier. Alors, quand Monseigneur, lors de l'Assemblée générale de l'Église, m'a demandé de prendre la charge de revoir le livret des servantes parce qu'on avait besoin de mettre en place une structure pour notre jeune ancienne Église des Gaules. Et c'est vraiment avec cœur que j'ai eu le désir de travailler à cette mise en place. Et que j'ai aussi accepté de jouer un rôle de médiation et de coordination entre les serviteurs du temple des différentes paroisses. Mais je n'ai pas la prétention de prendre une place de mère des servantes. La place est déjà prise. Pour moi, la mère de Dieu est la mère des servantes et je ne peux pas prendre sa place. Alors, je ne suis certainement pas la plus instruite ou la plus douée pour occuper cette place, mais c'est l'appel qui m'a été lancé, donc j'y réponds. Alors, à savoir qu'après cet appel, avec Monseigneur Grégoire, on a travaillé pendant 3 jours. On a revu tout le livret et on a essayé de faire un travail d'épuration pour aller à l'essentiel. C'est-à-dire aller vers ce qui est l'acte liturgique qui est porteur du sens profond de la célébration, sans pour cela écarter ce qui est de l'ordre de la coutume. La coutume a sa place parce qu'elle dispose et accompagne l'âme du fidèle, mais il ne faut pas qu'elle ait un caractère obligatoire. Alors, je vais donner un exemple. Pour la Pentecôte, on a coutume, du moins ici à Gorze, d'avoir en main, avec les cierges allumés, des fleurs rouges, notamment des roses. Et puis, d'orner chaque icône avec cette rose qui symbolise, bien sûr, la descente de l'Esprit-Saint, la langue de feu. Et la fleur, par sa couleur, par sa forme, elle nous met en présence de ce mystère. Elle est une alliée. Mais elle n'a pas ce caractère obligatoire. S'il n'y avait pas la fleur, ça n'empêche pas qu'il y ait la venue de l'Esprit-Saint et que la présence de la lumière, de ce cierge allumé, est beaucoup plus forte que la fleur, évidemment. Alors, il a fallu aussi enlever ce qui était de l'ordre de déviance. Et je pense à un exemple, pour la fête de l'Aetare, on fleurissait la croix. Et il me semble, Monseigneur me dira si c'est juste, que cela nous venait du rite romain et que c'était une chose qui s'était établie et qui avait un rapport avec les indulgences. J'avais lu cela et que ce n'avait pas du tout un caractère liturgique.
Je crois que c'est une coutume qui s'est établie vers le 14e ou le 15e siècle. À cette occasion, ce dimanche-là, le pape décernait la fameuse rose d'or qui récompensait une vertu notoire, etc. Généralement, c'était toujours des princes et des notables qui recevaient la rose en question. Ça n'avait pas un grand intérêt, ni spirituel, ni liturgique. Mais la croix fleurie, c'est aussi d'origine byzantine. C'est le dimanche de la croix. Ce jour-là, dans le rite byzantin, on vénère la croix et ils ne mettent pas des fleurs autour, mais des plantes vertes. Je ne sais plus.
Du basilic.
J'étais en train de chercher ce que c'était. Voilà, du basilic. effectivement, ça n'est pas dans notre rite.
Oui.
Ce que je veux montrer, c'est notre désir, c'est en fait d'établir une juste réforme pour nous enraciner dans le terreau de notre ancienne jeune église des Gaules. Voilà. C'est le souci, entre parenthèses, qui a été le nôtre tout au long des pages.
Oui. Oui.
Alors, en travaillant sur cet ouvrage, qui a une visée surtout pratique, je me suis rendu compte de l'importance qu'il fallait cerner ce qui est l'esprit du service. Quelle est la référence du serviteur du temps, la place qu'occupe le service du temple dans notre vie intérieure, et puis sa visée profonde. Alors, évidemment, pour moi, la référence, bien sûr, c'est celle qui a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. » Alors, j'ai choisi cette icône éthiopienne où on voit la Vierge qui est fécondée par l'écoute. On voit l'action de l'Esprit-Saint qui est très dépouillée. Et ses mains, bien sûr, sont dans la garde du cœur. Et ce qui est premier, bien sûr, dans le service, c'est l'écoute, le schéma. Puis, bien, j'ai l'autre référence, c'est celui qui est venu pour servir, le serviteur. C'est une icône du lavement des pieds. On voit le Seigneur qui est revêtu du tablier, qui lave les pieds de ses disciples. Voilà ma référence. Alors, ce que je vais dire maintenant, c'est le fruit de mon expérience pendant ces 22 années et puis de l'enseignement que j'ai reçu ici à Béthanie. Alors, la première chose que je contemple, c'est l'entrée de la Vierge au Temple. Dès sa plus tendre enfance, elle nous précède sur ce chemin. Et elle va entrer au service du temple pour faire de son corps le temple. Et là, on découvre que le temple de pierre est icône du temple de chair. Donc, pour moi, servante, le premier ouvrage à accomplir, c'est la conquête de la virginité de mon être. Faire taire toutes ces voix dont on a parlé avec Francis pour n'entendre que sa voix. Alors, je vais aller aussi dans le même sens que Francis, c'est que c'est indissociable de notre corps. Hein. On est dans la tradition de l'incarnation. Et on ne conçoit pas Marie sans une attitude, sans qu'elle soit centrée, qu'elle soit dans cette dignité de l'être. Et pour moi, avant d'entrer dans le service du temple, il y a un geste ou des gestes qui peuvent m'aider à entrer dans cette attitude, pour faire taire les voix, pour me rassembler, me recueillir en moi-même. Et lorsque j'ai été bénie servante, on m'a remis un voile. Et lorsque je fais ce mouvement de me couvrir de ce voile, je vis la même expérience que le juif pieux qui revêt le talit. Quand on revêt le talit, on entre dans la tente et on se recouvre de la protection divine. C'est un voile de protection. Hors du temple, je suis prise dans le filet de ces multiples pensées, de ces multiples soucis qui enserrent, qui me captivent. Et pour m'en séparer, pour m'en libérer, dans ce geste de revêtir le voile et en même temps d'entrer dans cette parole « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté, j'appelle sur moi l'ombre, le voile divin. » Et c'est très concret. C'est très concret. À partir du moment que je fais ce mouvement, je rassemble à l'intérieur et je peux entrer dans mon centre. Alors, il est évident que depuis des années que je pratique cette sagesse du corps, je sais que s'il n'y a pas cette rectitude lorsque j'accomplis le geste, ça peut être une mascarade. Ce n'est pas un voile que je revais, mais un fichu. Et c'est très important d'être dans cette attention, dans cette justesse du geste. Et bien souvent, il y a des petites choses. Bon, on n'a pas expérimenté avec Francis beaucoup d'exercices, hein, mais le simple fait de relâcher ses épaules vers l'arrière ou de souffler, mais pas n'importe comment, c'est l'exercice qu'on appelle souffler la bougie, qui nous remet dans notre centre, tout simplement. Et d'accomplir un signe de croix très consciemment, hop, on ouvre le ciel en nous. Il y a ce moment où on retrouve notre verticalité et qu'on va pouvoir ensuite entrer dans une action, mais à partir de la profondeur. Il y a aussi la prière du Talit qui m'a souvent accompagnée. Lorsque le juif pieux revêt ce voile, il dit « Ô mon Dieu, qu'il est précieux ton amour, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme ont un abri. » Pourquoi se priver de cette aide merveilleuse qui nous a été donnée ? Et alors, on peut, comme le prophète Samuel, entrer dans ce cri, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » La deuxième icône que je contemple, quand j'entre dans le temple, c'est celle de l'Annonciation. Et sur certaines, on voit Marie qui file l'écarlate. Eh bien, comme Monseigneur me l'a dit, l'écarlate, c'est la chair du Christ. Elle a préparé son temple. Et alors, comme elle est notre référence, celle qui nous a précédés, alors je vais vers elle et je tends mes mains vers elle et je lui demande de me transmettre ses vertus. C'est l'audace de l'enfant. Comme Sainte Thérèse de Lisieux, elle le révèle dans La Petite Voix. Elle dit « Les trésors de la mère appartiennent à l'enfant. » Pourquoi se gêner avec elle ? Et je crois que c'est important pour nous d'aller vers et de recevoir d'elle tous ces trésors que sont l'écoute, l'humilité, la douceur, la patience. Et alors, on peut, avec l'intercession de Marie, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous couvre de son voile d'amour et qu'il permette que règne cet esprit au sein de notre service. Parce qu'il va y avoir un combat qui va se dérouler tout au long de notre service du temple, où des esprits vont chercher à chasser l'esprit qui doit régner dans le temple. Et quel est l'esprit qui règne dans le temple ? Là, j'ai aussi mes petites illustrations. L'esprit de douceur, bien sûr, on en a parlé, d'humilité, de paix, de discrétion, de confiance, d'accueil. Et tout ça, ça se transmet aussi par notre attitude. C'est évident que si on fait la gueule. Au service de qui on se met ? Au service de qui on se met ? Qui sert-on quand on est dans une attitude de fermeture, lorsqu'on s'irrite ? Il y a Saint Jean de Kronstadt qui dit « Accorde-moi, Seigneur, de pouvoir aimer chacun de mes frères comme moi-même, de ne jamais m'irriter contre eux, de ne pas travailler pour le démon. » Lorsque je m'irrite, que je suis impatiente, je travaille pour le démon et non plus pour Dieu. Alors, je me ferme, je ne transmets plus. Je ne transmets plus l'esprit de paix, de lumière, de joie. Et c'est la même chose pour les soucis. C'est la même chose pour les soucis. On est captif, on ne peut plus entendre, plus recevoir, donc plus transmettre. Et on blesse notre service. Et lorsque l'on dit « Que ta volonté soit faite, je suis la servante du Seigneur, que ta volonté soit faite », c'est bon de se rappeler quelle est cette volonté. Que désire le Seigneur lorsqu'il reçoit la parole de Marie qui lui dit « Je suis la servante du Seigneur ». Elle se fait sa servante et lui, que fait-il d'elle ? Il en fait son épouse et une reine. C'est une voie royale. Le service du temple est une voie royale qui nous conduit à la royauté de nos cieux intérieurs. Ben voilà la reine. La reine des cieux. C'est une sculpture qui se trouve à Nazareth.
L'église supérieure.
Et qui a été faite par l'église de Chine, la reine des cieux.
Merci. Bon, vous l'avez tous vu, je pense. Tous ceux qui ont été à Nazareth, évidemment.
Oui. Mais c'est bon de se souvenir de cela quand on frotte le sol, qu'il y a des taches, que on vient. Bousculer notre travail. Oui, se souvenir que la visée profonde, c'est la royauté.
Et pour le serviteur, tu dirais quoi ? Le roi ? Et l'époux ?
Bien. Là, je me réfère à l'enseignement d'Annick. Hein. L'homme, il est appelé à être épousé par son Seigneur.
Mais
c'est son féminin.
Il n'y a pas de différence là. On transcende, n'est-ce pas, ce qui est bon pour les hommes, les femmes est bon pour les hommes. On ne peut même pas faire de. Il n'y a pas de transcription à faire, ça veut dire. Même l'âme des hommes est épousée par Dieu, d'une certaine manière. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. On dépasse là, entre ensemble la
différence. Oui, on est homme et femme, que nous soyons homme à l'extérieur dans notre sexualité, oui, ou femme. Nous sommes hommes et femmes. Et nous sommes, nous, appelés à être féminins, quand même, c'est féminin notre être, c'est notre profondeur, ça, c'est pas
exactement
dire le mot féminin notre être, la profondeur de l'homme, c'est féminin son être. C'est pareil.
Je ne donne que quelques éléments. Que quelques éléments, et avec... avec les servantes, avec les femmes qui, tout à l'heure, vont se retrouver avec Monseigneur. Je pourrais donner plus de développement que j'ai écrit, mais bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, bien sûr, je fais appel à Marie, mais aussi aux saints qui ont combattu au service du Seigneur et qui... ont chassé ces esprits qui blessent notre service. Alors, tout à l'heure, je vous ai cité Saint Jean de Kronstadt, mais il y en a d'autres, comme Saint François, avec la prière « Fais de moi, Seigneur, un instrument de ta paix ». Lorsqu'on m'enduque une prière, on la fait sienne, et le Saint, véritablement, peut être avec nous dans ce combat. Et celle qui... peuvent incarner pour nous le service, c'est Marthe et Marie-Madeleine. Apprendre, bien sûr, de Sainte Marie-Madeleine à choisir la meilleure part, c'est de demeurer avec le Seigneur, de demeurer. Elle s'assoit physiquement, c'est vrai, près de son Seigneur, elle écoute, elle inspire sa parole, elle s'en nourrit. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est apprendre à s'asseoir, à demeurer près du Seigneur, même dans le mouvement. Et ça, ce n'est possible aussi que dans l'attitude, d'être centré. Et à ce moment-là, on peut entrer dans la vigilance. Sinon, on est dispersé. Sinon, on est dispersé. Alors il y a Marthe, à qui on peut demander, parce qu'elle l'a combattu, de nous transmettre sa force, parce qu'elle, elle s'est irritée contre sa sœur. Elle n'a pas supporté que sa sœur ait cette place auprès du Seigneur, cette intimité. Elle a convoité, en fait, la place. Et alors, on voit le démon de la jalousie qui se déploie. Avoir la place de l'autre. On n'est jamais à la bonne place. Et je crois qu'elle peut vraiment nous y aider. Et il y a une tradition en Provence, avec la tarasque. Et je me suis souvent demandé qu'est-ce que symbolisait la tarasque. Et en travaillant un petit peu, j'ai découvert que, comme pour le graouli, qui est notre tarasque local, ça symbolise le démon de la jalousie. Et il est dit que Sainte Marthe a mis en laisse ce démon-là avec un ruban. C'est pas avec des chaînes. Pas avec des chaînes, avec un ruban. Alors il faut s'interroger, ce ruban, tout léger, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelle est l'attitude que l'on a à cultiver? Est-ce que c'est entrer dans le conflit, se battre? Ou alors avoir cette attitude de mise en croix? Mais il ne faut pas se tromper, ce que l'on met en croix, c'est notre ego. C'est lui qui va se laisser crucifier. Ce n'est pas dans la parole qui fait entrer dans la lutte. Je crois que c'est important que la servante entende cela, que sa puissance, elle est dans le silence, que si elle passe par les voies intérieures, en demandant l'intercession de ceux qui peuvent mener ce combat-là, alors il y aura la victoire. Et qu'il n'y aura pas besoin d'autres armes que l'humilité. Que l'humilité. Voilà, je crois que à travers Marthe et Marie, l'action et la contemplation, on peut entendre que c'est la voie pour devenir de dignes fils et filles de roi. Il y a dans l'injonction que l'on entend sans cesse par le diacre, debout, soyons attentifs, cette dignité, ce port royal, cette manière d'être là, qui est la visée profonde de notre travail. Je vais passer maintenant au côté le plus pratique. Donc, dans ce livret, on va reprendre l'essentiel, évidemment, de ce qui a été traité par les coffres. Oui.
Je veux dire simplement, ce livret est encore à l'état d'ébauche, d'embryon, d'ébauche. Il sera tout de suite, parce qu'il y a un temps de travail, et il sera évolutif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on pourra ajouter des fiches à l'intérieur. Bon. Mais il ne faut pas compter que vous l'ayez dans les 3 mois à venir. Hein. Je ne pense pas qu'on ait fini d'ici 3 mois. Bon.
Non, mais ce qu'on pourra faire, et peut-être ce soir, si vous avez des questions, on peut regarder pour les choses les plus urgentes et que vous preniez des notes.
Oui.
S'il y a des modifications importantes. Oui. Mon désir est profond, c'était que ce livret soit évolutif. Je l'avais demandé à Monseigneur que ce soit sous forme de classeur et dans lequel on puisse rajouter des choses, modifier. La première partie, bon, il y aura une introduction de Monseigneur Grégoire qui nous donnera le sens du symbole et son incarnation dans le geste.
D'ailleurs, ça aura un rapport, maintenant je viens d'en prendre conscience à l'instant, avec Marthe et Marie. Marie-Madeleine et Marthe, ce sont les deux faces d'une même action, finalement. Dans le symbole, il y a toujours deux choses. Il y a l'enseignement qu'on veut transmettre et comment il s'incarne, n'est-ce pas ? Bon. Par exemple, le baptême. Il y a un baptistère, on bénit l'eau dans un récipient qui a des limites, et on nous dit au moment de la bénédiction de l'eau, nous voici au bord de la mer, etc. Où on sait bien que c'est pas le cas. Mais il y a un rapport entre les deux choses, et pour que le symbole soit vivant, il faut que le rapport soit évident, simple à comprendre. Et Marthe, c'est le côté pratique, incarné, et Marie, c'est le côté symbolique, c'est-à-dire que les deux choses soient... S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas un véritable symbole.
Oui, c'est ensemble, voilà. C'est l'union.
Exactement. Bon, continue, excuse-moi. Ça peut vous donner des réponses à des questions qui peuvent se poser à tout moment. Si vous avez les deux choses, vous êtes dans la bonne direction.
Alors la première partie concernera l'église-temple, son plan, sa structure, sa symbolique et puis le descriptif. Alors je trouvais que c'était important de nous faire découvrir quelle est l'origine de la basilique. Donc je propose qu'il y ait des illustrations, qu'il y ait des plans, avec quelques petites annotations historiques. Et puis, la deuxième partie, ça va venir après. Donc, les plans, certes, bien sûr, les célébrants la connaissent, hein, puisque c'est dans le livre des prêtres. Mais j'y rajouterai toutes sortes d'éléments pratiques pour les servantes. Je vous le ferai passer, hein, vous pourrez le voir ce soir. Je propose aussi qu'il y ait des prières préparatoires. Chacune pourra trouver la sienne, hein, mais on peut faire des propositions de prières préparatoires, de textes qui peuvent nourrir notre esprit du service. Ensuite, les instructions pratiques, mais sur un plan général. Dans ces instructions pratiques, il y aura des recettes, des patrons, par exemple, pour les vêtements liturgiques, avec des illustrations. Aussi, tout ce qui concerne les couleurs, leur symbolique. Mais ça peut, selon vos suggestions, hein, ça peut s'étoffer, hein, bien sûr. On continue avec l'année liturgique. Alors là, pour chaque fête, il y aura un détail, des instructions pratiques. Je propose qu'il y ait aussi des schémas. Parfois, ça peut être très utile. Par exemple, dans le temps de l'Avent, lorsqu'il y a l'allumage du chandelier à cette branche, de la menorah, d'indiquer le sens très rapidement.
Oui, je veux dire par là que pendant les noms divins, on allume chaque jour une lampe et il y a un certain ordre, je ne sais pas pour les allumer, qui est préférence. Il ne faut pas faire n'importe quoi.
Oui, quand même, le Shabbat qui est au milieu. Hein.
Le septième jour est au milieu.
Oui, les jours de la création, les trois et trois. Oui. Qui reviennent vers le Shabbat.
Voilà, ça, il faut aussi de...
Oui, mais c'est noté comme cela. Alors, dans les illustrations, je disais à Monseigneur que je trouvais que c'était important que l'on se nourrisse de l'iconographie, de toute la richesse de l'art sacré du monde occidental. Alors, j'ai préparé quelques illustrations, mais je ferai une recherche plus profonde, que ce soit dans la mosaïque, dans la miniature, dans la sculpture et autres. Voilà, donc ce soir vous pourrez consulter ce qui n'est qu'un brouillon, une ébauche, et puis on pourra entendre les suggestions, les remarques que vous pourrez nous donner pour aller plus loin, hein, pour aller toujours plus loin. Voilà, j'en ai terminé.
Et je voudrais juste laisser quelque chose de personnel, parce que ce soir je ne pourrais pas être là. Mais avec toutes ces années, tout ce vécu, entrée, j'ai été moi aussi, hein, et fière, oh mon Dieu, quel bonheur d'être servante de l'Église. Je l'ai été pendant de si longues années. Eh bien, d'entrer dans le temple, en entendant le Seigneur nous dire, ma maison sera appelée maison de prière. Mais on ne peut pas, même si c'est pas pour être servant de l'Église ou serviteur de l'Église, mais chacun de nous, que ce soit choriste, que ce soit peuple royal, entrer, ouvrir la porte et entrer en étant habité par cette parole, ma maison sera appelée maison de prière. Et un autre aussi, une autre parole d'Adonai, de l'entendre dire, à l'intérieur de nous-mêmes, mon nom est là. Hein, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a dit, mon nom est là. Alors, je ne peux pas, oui, comme elle l'a dit, Carole, je ne peux pas faire des gestes pour faire des gestes. C'est impossible. Hein, c'est impossible. Et ça va plus loin encore, parce que ce temple extérieur, eh bien, l'extérieur et l'intérieur doivent être la même chose. Donc je suis au service de celui qui habite mon propre temple, demeurez en moi comme je demeure en vous. Alors tout doucement, oui, mon cœur, il transmute, c'est le chemin de l'amour. Voilà, je voulais quand même laisser ça, en tout cas c'est C'est ce que j'essaye de vivre pour moi. C'est des paroles qui m'habitent sans arrêt, sans arrêt.
Il faut aussi dire, témoigner de ça, que pour ceux qui ne sont pas servantes, ceux qui vivent quand même dans le temple comme nous, nous autres, eh bien la servante est une réelle présence. Elle crée une atmosphère par sa manière d'être, son service et tout ce que Carole a dit. Ça crée vraiment une atmosphère. On le sent sans pouvoir toujours l'exprimer, mais il y a cette présence qui est si importante vraiment. Et donc, ce n'est pas le fait d'allumer des veilleuses ou de nettoyer le plancher. C'est à travers ce chantier un être qui se manifeste et qui rayonne. Et je sens ça très fort, j'ai toujours senti ça.
Je crois que c'est important de le dire et de le mettre en place avant tout le reste, parce que c'est l'essentiel et diriger et incliner notre action, notre service du temps dans le bon sens. Et ça va nous éviter des erreurs malheureuses, je sais pas, des antagonismes dont tu as parlé, des conflits hiérarchiques, des conflits de propriété, etc. Oui. D'embrigadement et autres. Et ça, c'est très important. Il faut absolument éviter ça. Le côté spirituel, c'est quasiment les trois quarts du service. L'attitude intérieure du serviteur ou de la servante c'est trois quarts de son service. C'est déjà plus important.
Oui. Mais cette attitude intérieure, et là je reprends Francis. Elle passe par notre manière d'être dans notre corps. Si je suis bien raide dans mes épaules, parce que je les remue et puis tout le reste, je suis obligée de casser, je suis obligée de laisser couler l'huile, je suis obligée de... Voilà, après, je suis obligée, c'est dans tous les services, ma manière d'être dans mon corps. Mon Dieu, si je n'ai pas lâché prise, si je ne m'envole pas... toute la raideur dans nos mains, on casse, on piétine, on bouscule. Oui, je rends gloire à Dieu dans mon corps. Dans le corps que je suis, je rends gloire à Dieu. Je suis à son service dans le corps que je suis. Tu le reprendras encore, Carole, parce que c'est extrêmement important. Extrêmement important. Ma manière de me déplacer, ma manière de... C'est tellement important. Quel bonheur.
Je voulais dire que, Matouchka, tu dis que tu as été des années servante de l'Église. Oui. Je crois que tu peux dire que tu l'es toujours et plus que jamais. Parce que personnellement, je prépare chaque liturgie avec toi. Donc, si tu n'es pas servante encore. Oui. Et Carole a grandi à vos côtés. Et maintenant, je dirais que tu nous transmets le nectar de tout ce que tu as vécu et expérimenté. Donc,
Elle me supporte, je veux le laisser là-dessus pour finir. Tiens, merci Nathalie, merci. Merci toutes ici pour votre amour. Mais, je suis un être de feu, tout le monde le sait, je suis du feu. Et je me confesse toujours du même péché, qui est mon impatience. Et alors, je disais à... maintenant c'est Monseigneur Calistos qui est le père spirituel depuis tant d'années. Et où je disais, Père, et je reviens toujours avec mon impatience, et je n'arrive pas à en guérir. Et alors c'était surtout au cœur, quand c'est pas juste. Alors il m'écoutait, et je vous laisse ça. Il me dit, Rachel, mais écoutez-moi jusqu'au bout, Il faut toujours être impatient, parce que les impatients font avancer le monde. Mais ne t'impatiente jamais contre quelqu'un. Alors, je lui dis, comment on fait? Il dit, dès que tu sens que ça monte, tu dis, Jésus, Jésus, Jésus. Et tu verras. Alors, j'ai expérimenté. Et je peux dire que ça marche. Alors j'ai raconté, à l'époque, je raconte ça aux membres du cœur. Et alors, quand elle sentait que dans mes yeux, l'impatience montait, il y a une qui poussait l'autre. Jésus. Et on partait dans le rire. Et puis ça y est, il y avait...
Voilà.
Ah, c'est vrai, Nathalie. Ah, c'est vrai. Voilà, je vous laisse ça, parce que c'est un cadeau, ça.
Je voulais dire aussi que j'étais fière que tu sois responsable de servante, Carole. J'étais fière que tu sois dans notre communauté.